Cité Radio. Il est 10h. La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, avec Cité Radio. La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Bonjour, c'est Ligaïa. Savez-vous qu'en Touraine, il se passe énormément de choses et que l'économie est très dynamique ? Dans mes rendez-vous de Ligaïa, je vous propose chaque semaine de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui agissent sur notre territoire pour le rendre toujours plus attractif. Alors je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Les rendez-vous de Ligaïa, c'est tous les jeudis et dimanches à 13h sur Cité Radio. La positive info.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clémence Dibou, reporter télé de la chaîne BFM TV. Un reporter, c'est un ou une journaliste qui se rend sur le terrain, plus précisément sur le lieu où se déroule l'actualité du moment, pour recueillir des faits et des témoignages. Être reporter, c'est aussi prendre des risques vis-à-vis des événements qu'il couvre. Malgré cela, y a-t-il des limites à l'information ? C'est ce que nous allons voir lors de cet échange. Clémence Dibou, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que devenir journaliste a toujours été une évidence pour vous ou au contraire, le cheminement s'est fait progressivement ?
Alors moi, je suis plutôt de la team qui est née avec l'envie d'être journaliste. Depuis longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu être ça. Et dès que je faisais la moindre sortie scolaire, la moindre sortie le dimanche, j'en venais et j'en faisais un article sur un cahier. Donc j'ai toujours voulu faire ça.
En 2008, vous sortez diplômée d'un master en journalisme à Sciences Po Paris. À la suite de cela, vous débutez une grande aventure de 5 ans au sein du groupe Canal+, d'abord en tant que reporter pour la rubrique internationale de l'émission La Matinale, puis reporter pour la chaîne CNews, anciennement iTélé. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, alors j'ai eu la chance de commencer à la matinale de Canal+, en tant que reporter inter, quand il se passait quelque chose à l'étranger. Donc c'était super comme tout nouveau boulot. Et après, j'ai très vite bifurqué en 2011 à iTélé, donc. Et là, effectivement, couverture de l'actualité où on a un peu les mains dans le cambouis, on a une petite main d'une grande chaîne d'infos et on apprend petit à petit comme ça.
Et comment est venu le choix de Canal+ ? Comment s'est fait ce choix de média ?
En postulant un peu à droite, à gauche, et puis je sais que c'est un média que je regardais beaucoup. Je regardais beaucoup matinale de Canal+, j'aimais bien parce que c'était l'esprit canal. Et il m'avait proposé de venir pour un entretien, pour un stage. Et comme je sortais d'école, j'étais quand même allée. Et je leur avais dit, ça m'intéresse beaucoup, mais en fait, je sors d'école, donc je veux pas un stage, mais un boulot. Et ils ont dit, ok, on va faire le poste.
Couvrir des événements à l'étranger, vous le faites depuis que vous êtes diplômée, donc vous avez préféré commencer par la politique internationale. Pourquoi avoir fait ce choix ?
C'est toujours un peu l'idée d'aller voir à l'autre bout du monde ce qui se passe parce qu'il y a moins de témoins et que donc du coup ce qu'on va ramener est un peu plus prestigieux, on va dire. Parce que quand c'est loin, il y a moins de monde, donc notre témoignage est plus précieux. Ce qu'on va ramener, c'est plus précieux. Il y a toujours un peu une sorte de hiérarchie tacite et non dit. Quand on fait de l'inter, c'est plus prestigieux. Or, bien sûr, évidemment, c'est pas vraiment ça parce que là, il y a eu le conflit avec les agriculteurs. Je l'ai beaucoup découvert pour BFM TV. J'étais quasiment tous les soirs sur les barrages pendant une semaine. Et j'ai trouvé ça passionnant à essayer d'expliquer, de raconter, de comprendre. En revanche, effectivement, il y a une dimension quand on part loin, c'est qu'il faut encore plus vite comprendre les enjeux, le pays dans lequel on est. Donc il y a une dimension encore plus compliquée pour raconter et donc c'est un défi et donc c'est intéressant.
Oui, il faut savoir s'adapter, peu importe les circonstances.
Tout de suite pouvoir comprendre et interpréter où est-ce qu'on se trouve. Moi ça m'est arrivé par exemple d'avoir zappé qu'en Égypte, c'est plus difficile pour une femme de trouver un interlocuteur homme. Il faut très vite percuter où on est, dans quel pays on est.
Après Canal+, vous devenez présentatrice de la revue de presse puis correspondante en Chine pour France 24. Est-ce que c'était une de vos volontés de vouloir exercer les différentes facettes du métier de journaliste ?
Oui, en fait, moi, tout m'intéressait. Donc, à chaque fois qu'il y avait une opportunité se présentait, j'y suis allée. Et être correspondant, a fortiori, dans un grand pays comme la Chine, donc à Shanghai, c'était une envie. L'occasion s'est présentée, j'y suis allée. Et alors, la découverte d'un autre monde, être correspondant à l'étranger.
Pour la Chine, comme on sait que c'est assez fermé au niveau de l'information, est-ce que vous avez des difficultés de ce côté-là ou pas ?
Oui, c'est un défi. Tout est une difficulté. Ce qu'on fait parfois en France dans des sujets, un micro-trottoir par exemple, demander aux Chinois dans la rue ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. En Chine, ça peut prendre des heures parce que la population n'a aucun intérêt à parler à un média étranger, à part peut-être de se prendre un retour de bâton, d'avoir dit quelque chose qui déplaît, donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de vie parlementaire, par exemple, comme l'Assemblée ou le Sénat. Et donc, la mise en image est très complexe en Chine, donc tout est un défi. Mais il y a énormément de sujets à traiter, donc, encore une fois, c'est très passionnant et c'est très compliqué à mettre en image. C'est un défi sur la Chine et puis parfois c'est compliqué avec les autorités.
Et cette volonté aussi d'être présentatrice télé, comment c'est venu ? C'est quelque chose qui vous intéressait aussi ?
En fait, par exemple, dernier exemple en date, je reviens d'Israël mi-novembre. Le lendemain, on apprend qu'il y a une trêve. Je vais pas retourner là-bas, mais c'est quand même un peu brigade anti-scoop. Je rentre vraiment pile quand il fallait pas. La chaîne me propose de venir en plateau pour alimenter les débats avec ce que j'ai vu sur place, donner des infos du vécu, du terrain. Ça, je trouve ça passionnant. Ça peut compléter le travail de terrain, de venir en plateau en parler.
C'est pas forcément votre choix premier. Vous, ce qui vous anime, c'est vraiment le reportage et d'être sur le terrain.
C'est toujours très sympa d'être en plateau et de prendre un peu la lumière et de donner les infos. Mais vraiment, moi, ce que je préfère, c'est vraiment être sur place, au contact avec les gens, peu importe où ils sont, en France, à l'étranger, et pouvoir en reporter après, quitte à venir en plateau, du coup, pour raconter ce que j'ai vu.
Un des grands événements de cette année, c'est du 25 au 30 mars prochain. Les Assises du journalisme reviennent à Tours pour la 17e édition. Vous étiez notamment présente à celle de 2022. Le thème de cette année est le journalisme, c'est du sport. Actuellement, comme on le rappelait, vous êtes sur BFM TV en tant que présentatrice d'infos en continu. Est-ce que l'endurance, c'est une aptitude à avoir ?
Au niveau du rythme de travail, c'est bien plus des sprints, puis après on souffle, que des marathons. Ce marathon, ça pourrait correspondre à quelqu'un qui fait un documentaire de 52 minutes ou quoi. Nous, on va, c'est pas que c'est des périodes courtes, parce que parfois ça dure. En Ukraine, on fait des missions jusqu'à 3 semaines, mais après, on a un peu de temps pour souffler. Donc c'est plus des gros coups de collier, des gros coups d'actu, où il faut tout comprendre tout de suite parce que ça vient d'arriver, c'est un breaking news, par exemple le 7 octobre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les enjeux? Alors qu'on est à chaud, on est dans ce qui se passe. Et c'est notre rôle à nous, d'abord en chaîne d'infos, c'est de décrypter en temps réel ce qui se passe.
Et comment vous faites pour combler les vides? Parce que, comme vous disiez, là, pour le 7 octobre, on ne connaît pas toutes les informations. Donc il y a des moments de blanc. Comment on fait pour les combler?
En fait, le doute est une information. C'est-à-dire que à l'instant T, la question que va me poser le présentateur ou la présentatrice en plateau, c'est aussi une information et bien sûr notre devoir de dire « bah écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous répondre ». Et pourquoi je ne suis pas en mesure de vous répondre? Soit parce qu'on n'a pas accès à l'information, parce que c'est verrouillé, et ça aussi, c'est une information. Pourquoi on n'a pas accès à l'information? La situation est bien trop confuse. Vous pouvez voir autour de moi que y a des gaz lacrymogènes ou la police ou une situation tendue. Et donc, du coup, c'est en train de se faire. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant. Nous le saurons très prochainement et on vous tiendra au courant. Mais c'est une photographie à l'instant T. Il ne faut surtout pas hésiter à dire « je ne sais pas » et voilà pourquoi je ne sais pas, parce que ça reste quand même une information.
Et oui, il faut s'assurer de la véracité des informations, c'est très important. Maintenant, en tant que reporter, je parlais précédemment de vos débuts à l'étranger et en tant que correspondante, il y a eu l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, entre autres, mais aussi l'Ukraine et l'Afghanistan. Quand vous êtes allé dans ces pays de guerre, comment travaillez-vous sur le terrain ?
Alors, c'est pas des terrains anodins, ça c'est sûr, et le risque n'est pas le même, donc la préparation n'est pas la même. Par exemple, à Kaboul, le risque c'est plus un attentat suicide, par exemple, donc il faut être un peu plus aux aguets à l'instant T, à qui on parle, est-ce qu'on reste longtemps au même endroit, comment on se déplace dans un véhicule, en ville, tout ça.
Vous y allez pas toute seule, vous êtes souvent accompagnée d'un fixeur, c'est ça?
Exactement, tout le temps.
Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un fixeur pour les gens qui nous écoutent?
Un fixeur, c'est un peu nos yeux, nos oreilles, c'est souvent un journaliste, mais pas que, qui va parler la langue déjà, qui va connaître les us et coutumes, qui va connaître les gens et qui va nous aiguiller, qui va nous dire alors là c'est peut-être un peu compliqué d'y aller. C'est quelqu'un qui va fixer notre présence sur place. Et ils sont souvent indispensables et c'est souvent eux qui prennent le plus de risques parce que eux vivent à l'année dans les pays compliqués. Donc ça peut être compliqué pour eux de travailler avec des médias occidentaux, notamment par exemple en Afghanistan. Le risque en Afghanistan, donc c'est plus attentat suicide, mouvement de foule, arrestation. En Ukraine, le risque c'est plus on se rapproche de la ligne de front, plus on peut prendre une frappe ennemie. Mais il y a des solutions plus ou moins de repli si on retourne à Kiev. Alors ça dépend des moments dans la guerre, effectivement plus de repli que si on va à Pokrovsk par exemple. Il faut bien choisir son hôtel, il faut se préparer, avoir son gilet pare-balles, son casque, sa trousse de secours, son groupe sanguin écrit sur son gilet pare-balles et connaître le camp de ses camarades si jamais il arrive quelque chose. Voilà, c'est des détails comme ça.
Vous écoutez Cité Radio.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3 avec Cité Radio.
À la différence des plateaux télé, avez-vous, sur le terrain et encore plus dans des zones à risque, cette adrénaline qui vous empêche d'avoir peur?
En fait, souvent c'est la question, mais t'as pas peur et tout? Moi, j'ai aucun problème. Parfois, j'ai peur. Mais en fait, je suis pas là par hasard. Je suis pas arrivée là parce que la guerre m'est tombée dessus. Je vais là-bas parce que je veux soit vérifier des informations, soit voir ce qu'il en est de mes propres yeux. Donc, en fait, il y a une dimension parce que, et c'est ce qui met énormément de distance par rapport au danger, c'est que je viens chercher quelque chose. Je veux parler aux gens. Je veux savoir ce qu'ils vivent. Je veux savoir si c'est effectivement une avancée des Russes, par exemple, en ce moment. Qu'est-ce que donne la contre-offensive ukrainienne? Donc, je viens chercher une information. Donc, forcément, la peur est là. C'est pas ça, mais il y a un but à ma venue. Donc je ne suis pas en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là. Et alors moi je suis rédactrice, donc j'ai mon carnet, mon stylo, j'essaye de tout noter, de tout comprendre. Et le JRI qui est avec moi, donc le caméraman, lui il a aussi la distance de la caméra pour se protéger un peu. Alors tout ça c'est théorique et tout dépend de ce qu'on vit sur place. Parfois ça passe pas loin, mais encore une fois on n'est pas là pour se faire des frissons déjà d'une. On est là pour raconter ce que vivent les gens. Et en plus de ça, on peut se dire qu'on a peur quand il y a un bombardement qui tombe pas loin. C'est toujours très stressant. Sauf que nous, on le vit une fois, là où la population est là avec sa famille depuis des semaines, parfois des mois, parfois des années. Ça met un peu en recul, quoi.
Est-ce que ça vous laisse des séquelles psychologiques?
Très certainement. Après, pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, l'impression de vivre dans un pays où, si on remet toute l'humanité en perspective, vous êtes mis un peu du bon côté de la barrière.
Maintenant, si on fait le parallèle avec les Jeux Olympiques, les sportifs visent la première place et veulent rapporter le maximum de médailles. Vous, ce ne sont pas des médailles, mais de l'information. Est-ce que vous êtes prête à tout pour récupérer des informations? Ou comme je disais en introduction, y a-t-il des limites?
Non, effectivement, il y a des limites et c'est toujours un ratio et la question se pose tout le temps et en plus en équipe. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas pour l'information qu'on va ramener, pour le risque qu'on va prendre? Parce que la première victoire d'un reportage en zone compliquée, en zone de guerre, c'est quand même de revenir toute l'équipe ensemble, vivante. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà un bon paramètre. Donc, on ne va pas pouvoir ramener un bon reportage si on a perdu un membre de l'équipe pendant ce reportage. Donc déjà, c'est un des premiers critères. Exemple très concret, il y a 2 ans, au moment de la chute de Bakhmout, la question se posait d'y aller ou pas. Il se trouve qu'une équipe de BFM TV y était allée 15 jours avant, qui avait fait un reportage vraiment glaçant et qui faisait état de la situation là-bas, qui était vraiment tendue. Et on s'est reposé la question, nous, de la pertinence d'y retourner, puisque le sujet avait déjà été fait, puisque c'est énormément de risques, et on a pris la décision de ne pas y aller, parce que ce qu'on allait ramener comme information, ça allait être très certainement comme nos camarades qui avaient très bien fait ce reportage, et que donc du coup, on n'allait rien amener de neuf, et que donc du coup, ça ne valait pas le coup de prendre un risque.
Et les limites, est-ce que c'est vous qui vous les posez, ou au contraire, c'est votre hiérarchie?
J'ai parfois eu des lignes rouges, ça c'est non. Tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. C'est très frustrant, mais il faut le comprendre. Et sinon, après, sur ce que j'estime être dangereux ou pas, c'est nous, l'équipe sur place, qui décidons. À partir du moment où on a un feu vert, enfin, en tout cas, à partir du moment où on a l'absence, on n'a pas de ligne rouge, c'est nous qui décidons, qui sentons sur le terrain, si oui ou non.
Donc maintenant, on va passer du tout au tout, être au plus proche des téléspectateurs, avoir une...
Les piscines publiques qui rouvraient. Et il y avait une personne dans la piscine. Donc si je voulais l'interviewer, de toute façon, c'était un peu compliqué. Et puis ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu reprendre de bain. Qu'est-ce que ça pouvait faire de retourner à une vie normale? Et donc, j'ai décidé de mouiller le maillot, de se mettre en scène. Et en plus, comme on fait de la télévision, c'est toujours visuel, quoi.
Oui, c'est ça. C'est un plus. Même comme vous le disiez, avec les agriculteurs, il y a cette volonté d'être au plus proche des gens pour que ça parle aussi aux téléspectateurs.
Bien sûr. Et pour le coup, les journalistes de terrain, on est tout le temps en train de parler aux gens. C'est très rare que je reste une journée entière à la rédaction. Et c'est pas parce qu'on les a vus une fois sur un barrage, les agriculteurs, qu'on les a tous vus. Donc oui, tous les soirs, un nouveau barrage, des nouveaux profils. Bien sûr qu'ils s'en dégagent quelque chose et ça nous permet de comprendre leurs revendications et ce qui fait que c'est un mouvement. Et ça va plus ou moins dans le même sens, mais n'empêche que pour affiner à chaque fois sa connaissance du mouvement, il faut y aller tout le temps.
Le fait de faire des sujets plus légers, est-ce que c'est important pour vous?
Plus léger dans le ton, je sais pas. En tout cas, plus concernant et pour plus de proximité. Moi, ça me dérange pas du tout. Et la dernière fois, j'ai fait un sujet au port du Havre sur les conséquences concrètes des tensions en mer Rouge avec les Houthis. On a rencontré un négociant qui importe du bois et qui nous a montré concrètement comment il allait répercuter la hausse du coût de transport, parce que ça transite donc par le sud de l'Afrique maintenant. Et on est arrivé à voir que la porte qu'on allait acheter à Leroy Merlin, Bricorama ou quoi que ce soit pour faire ses travaux soi-même, elle allait augmenter de 20%. Donc, information de premier ordre pour un consommateur qui regarde la télé. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant.
Et dans le journalisme, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce qu'on peut parler de métier passion? Donc, je pense que vous avez répondu au début, mais je vous laisse répondre.
C'est hyper pompeux, mais moi, je le vis comme... je m'arrête jamais d'être journaliste, en fait. Je rentre chez moi, je continue à regarder les magazines, à regarder la télé, à me dire « Ah, mais ça, ce sera un super sujet. » Même mon compagnon et mon fils, parfois, ils en ont ras-le-bol. Je ne décroche jamais. Parce que j'ai l'impression d'être tout le temps, en fait, dans cette volonté de trouver l'histoire, de raconter. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus, parce que c'était votre question. Raconter. Raconter, pas dans le sens inventer, mais rapporter ce que j'ai la chance de rencontrer des gens différents tous les jours, parfois qui sont passionnants. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus, c'est de rapporter ce qu'ils m'ont dit.
Et depuis que vous exercez ce métier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Une anecdote peut-être là qui vous vient comme ça?
La violence sous-jacente, régnante dans le mouvement des Gilets jaunes. Parce que nous, on était pendant peut-être un an. Moi, j'ai fait quasiment tous mes week-ends dans les mouvements Gilets jaunes à travers la France. Et on était très régulièrement pris pour cible verbalement, parfois physiquement. Le dialogue n'était pas possible, c'était une haine permanente et c'était pas forcément facile à vivre. Parce que nous, on était tout le temps sur le terrain, tout le temps au milieu des manifs. Et ça n'a jamais empêché les journalistes de terrain de ne pas y aller. Pourtant, l'hostilité, elle était franche et massive.
Est-ce que être reporter, ça peut être à la portée de tous ou au contraire, il y a des critères à respecter et certaines qualités à avoir?
Bah si, oui, c'est justement, c'est l'histoire des réseaux sociaux. Tout le monde peut être, tout le monde peut avoir l'image importante pour l'info. Tout le monde peut rapporter, tout le monde peut être reporter. En revanche, effectivement, il y a un état d'esprit plus qu'un apprentissage, c'est-à-dire que.
Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux journalistes, du coup, si on prend Hugo Décrypte, qu'est-ce que vous pensez de cette forme de journalisme?
Bah, c'est bien la preuve que tout le monde peut devenir un vrai journaliste, parce que Hugo Décrypte, il est maintenant sur France 2 et puis il informe. Bon, je sais que ma petite sœur, elle adore ce qu'il fait. Moi, bon, je me suis mise à regarder, c'est pas mal. Parce qu'il y a c'est par le ton journalistique, mais c'est parce que c'est une absence de point de vue, en fait. Donc, à partir du moment où il n'y a pas, l'information n'est pas utilisée pour dénoncer quelque chose ou pour prouver quelque chose, on commence déjà à être un peu plus dans le journalisme.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, avec Cité Radio.
Fever, beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head.
Tweets and trusted to the boogie light.
King
Kong
Fire.
Beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb down.
With a King Kong fight, through the King Kong drive on the Cabernet Boogie. What's the matter with me?
What's the matter with me?
I'm playing like a shaking under the coconut tree.
The beat of a song, buzzing in my head.
I'm head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong.
Twitching to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club.
I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a good ass feel.
To the beat of a song, buzzing in my head.
L'info locale, c'est sur Cité Radio, à Saint-Cyr ou à Saint-Pierre-des-Corps, sur le 89.3.
Lorsqu'on parle ou on énonce le nom de BFM TV, cela amène au débat. C'est une chaîne qui reste critiquée et quelquefois controversée. Vous qui travaillez au sein même de ce média, qu'auriez-vous à dire à ceux qui remettent en cause le travail des journalistes ?
Au niveau des chaînes d'information, on n'est quand même pas loin de fournir ce qui se fait de mieux en termes de reportage. En termes de qualité de duplex, en termes de réactivité, que je pense que c'est en termes de reportage, c'est ce qui se fait de quasiment mieux au niveau des chaînes d'info.
Mais après, qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui remettent votre métier en cause, que ce serait pas forcément de la vraie information?
Bah de regarder la chaîne, parce que souvent c'est vraiment un constat. Souvent, ceux qui ne regardent pas, c'est ceux qui nous critiquent. Mais c'est-à-dire que c'est un tweet ou un commentaire de quelqu'un qui dit qu'il a vu la chaîne, ça n'est pas regarder la chaîne.
Donc, il faut regarder BFM pour émettre une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais elle sera plus constructive.
Exactement.
Maintenant, qu'avez-vous appris de votre expérience sur cette chaîne ? Depuis que vous êtes à BFM, qu'est-ce que vous avez appris ?
Pouvoir switcher d'un sujet sérieux à un sujet léger, d'un sujet inter à un sujet de proximité, et qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie dans ce qu'on doit faire d'un jour à l'autre.
Et pour les futurs journalistes, les journalistes à en devenir, qu'auriez-vous à leur dire ? Peut-être des choses que vous auriez aimé entendre quand vous étiez étudiante ?
Oui, que ça peut prendre du temps d'avoir une place, mais que ça vient toujours, déjà d'une. Qu'il faut pas hésiter à innover. Parce que souvent, en école de journalisme, et c'est bien normal, on nous demande de copier un peu ce qui se fait en termes de reportage, en termes de duplex. Mmh. Or, la fraîcheur du débutant ou d'une nouvelle génération qui est plus habituée, je sais pas, aux réseaux sociaux ou quoi, et qui peut apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté, franchement, c'est pas mal.
Donc, ça serait être créatif et motivé aussi,
oui,
surtout.
Oui, c'est ça, être créatif. Alors après, c'est paradoxal, parce que pour être créatif, il faut déjà avoir compris comment on fait un reportage, mais peut-être ne pas hésiter à très vite s'en extraire pour apporter sa patte ou ce qu'on pense être un peu novateur.
Avoir sa propre identité. Enfin, pouvez-vous nous dire quels sont vos projets ? Peut-être un départ pour l'étranger dans les prochains jours ?
Je pense qu'on va devoir retourner au Moyen-Orient. On aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir l'opportunité de pouvoir aller en Égypte et à Rafah. C'est très compliqué d'avoir des autorisations. Ça fait des mois qu'on les demande. Ça fait des mois qu'on demande d'avoir un visa, on ne l'a pas. Évidemment, une fois, si on pouvait avoir la chance d'être à Rafah, c'est de pouvoir essayer de rentrer dans Gaza, raconter ce qu'il en est. C'est très frustrant. On travaille avec des journalistes qui sont sur place, qui nous envoient des images. Et donc, et à partir de ça, on monte des reportages. Mais c'est une grande frustration de ne pas pouvoir aller là-bas voir ce qui se passe. Donc, ce serait un objectif de 2024. Pour l'Égypte, côté Rafah, en fait, déjà, ce que nous dit l'Égypte, c'est que c'est réservé pour l'instant aux correspondants permanents.
D'accord.
Et ensuite, il y a deux points de passage entre Israël et Gaza, Erez au nord et Kerem Shalom au sud. Kerem Shalom, c'est là où passe l'aide humanitaire, c'est bloqué. On y est allé plusieurs fois, on ne peut pas aller plus loin. À Erez, l'armée israélienne nous a emmenés dans Gaza pour aller voir les tunnels, mais c'était vraiment juste à la frontière. Donc, c'est pour l'instant, c'est l'armée israélienne Tsahal qui décide quel journaliste au compte-gouttes peut aller dans Gaza, mais c'est vraiment très limité. Et donc, effectivement, on ne peut pas y aller. Et en plus de ça, il y a aussi une autre problématique, c'est que la bande de Gaza étant dans un tel état administratif que c'est compliqué de faire des demandes à qui que ce soit d'autorisation de rentrer. Et en plus de ça, il y a la question sécuritaire qui se pose, qui se poserait dans un deuxième temps. Déjà, il faudrait qu'on ait l'autorisation d'y aller. Après, on pourrait étudier, évaluer la dangerosité. Mais là, je pense qu'on est tellement en manque d'informations sur ce qui se passe sur place que je pense que ça vaudrait quand même le coup d'aller voir, quoi.
Pour terminer, auriez-vous un message à transmettre à nos auditeurs ?
Oui, bah, en fait, il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de critiques négatives sur notre métier. Moi, je pars très souvent loin de ma famille. Je prends le risque parfois de parvenir alors que j'ai un fils de 6 ans pour aller informer. Et personne n'a rien demandé et je le fais parce que c'est ma passion. Mais ça reste vraiment un chouette métier qui mériterait d'être mieux considéré.
Merci Clémence Dibou d'avoir accepté de répondre à nos questions. On peut vous retrouver sur BFM TV, canal 15 de la TNT. Enfin, sachez qu'une autre interview de Clémence Dibou est disponible sur notre site citeradio.fr. Par rapport aux assises du journalisme de 2022, merci encore et excellente journée sur Cité Radio.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3 avec Cité Radio.
Vous êtes toujours sur Cité Radio, la positive info. Merci à tous pour votre fidélité et nous allons continuer dans un instant avec les bons plans, mais tout de suite, retour de la musique.
De la lisière, vienne la pluie, l'ami, ton de la voix la ma philosophie. À l'heure où sonne l'écorce, faillit la force. Clean baby. Il ne s'agit pas, messieurs, d'oscir ou pire à tout va. Bon, changer le monde, si je veux l'adoucir, à défaut d'en être la vie.
La bonne musique à écouter chaque jour sur Cité Radio. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, c'est Guillaume et je suis ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 89.3 FM et le DAB+ à Tours et partout dans le monde sur notre site citéradio.fr. Voici maintenant un instant 100% musique française avec des idées sorties à faire dans la région Tourangelle. Et voici donc une première idée sortie. Bonne journée à tous.
Cité Radio, les bons plans.
Jusqu'au 2 juin 2024, venez à l'hôtel Gouin de Tours pour découvrir d'un regard à l'autre. Cette exposition photographique vous emmène dans l'univers du parasport. Pas moins de 42 portraits d'athlètes sont présentés et réalisés en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et mettant en lumière des parcours de vie marqués par la résilience. Leurs espoirs couronnés par des médailles sont des victoires tant sportives qu'humaines, le témoignage de leur abnégation, de leur volonté féroce et de leur parcours jalonné d'épreuves dont ils ont su se relever toujours plus fort. C'est donc à ne pas manquer du 6 mars au 2 juin 2024 à l'hôtel Gouin de Tours. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h et toutes les informations sont à retrouver sur le site hotelgouin.fr.
Vous êtes à l'écoute de Cité Radio, la positive info.
Place à la musique sur Cité Radio et nous écoutons Sylvain Dutu avec Les jours qui restent.
Pourquoi ce soir? Très tard, même si c'est pas ton genre, je sais, même si tu es plutôt discret. On parlera de tout, de rien. On fera le monde, j'y connais rien. On se dira ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on aurait pu être, mais
qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Jamais le temps de rien. Dans l'océan, gardez le lien. Paris, Biarritz, avril ou juin. Pas beaucoup vu, vie dans les trains. Les disparus sont jamais loin. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance, non, non. On a eu de la chance, c'est pas que de la chance.
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Qu'est-ce qu'on fera? jours qui restent. Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on en fera?
Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent? Qu'est-ce qu'on fera des jours qui restent?
Toujours de la bonne musique à écouter sur Cité Radio, La Positive Info. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, c'est Guillaume et je suis ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le 89.3 FM et le DAB+ à Tours et partout dans le monde sur notre site citéradio.fr. L'instant 100% musique française et idées sorties tourangelles continue et nous vous proposons maintenant une nouvelle idée sortie.
Cité Radio, les bons plans.
Si vous vous baladez du côté d'Amboise, n'hésitez pas à vous rendre au château du Clos Lucé. Vous pouvez ainsi voyager à travers 800 ans d'histoire, mais aussi découvrir ce lieu qui fut la dernière demeure de Léonard de Vinci. Vous pouvez visiter les ateliers du maître avec son cabinet de curiosités et vous promener dans le parc et le jardin de Léonard étant un espace naturel entièrement aménagé comme un tableau vivant. Enfin, à l'occasion de la sortie en salle du film d'animation Léo, le Clos Lucé expose une grande partie des décors comme le château, la chambre et les autres personnages qui ont servi à la fabrication du film. C'est à voir du 3 février au 12 mai 2024 au château du Clos Lucé à Amboise et toutes les informations sont à retrouver sur le site vinci-closlucé.com. Bonne journée et merci d'être à l'écoute de Cité Radio. La programmation revient tout de suite.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3 avec Cité Radio.
Je t'ai vu tracer le long du paysage. Une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse tremper ensemble. Et si le jour vient pas, dans la nuit t'es perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. J'ai voulu calmer ton souffle qui s'étouffait, des courses vers le vide, ton rire qui soupirait. Si tu mets le cap vers tes eaux restant troubles, je serai le phare qui te guidera toujours. Mais quand les saisons attendront ton retour, ce sera le vent qui portera secours. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour ne vient pas, dans la nuit t'es perdue, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas, crier tout bas. Je t'ai vu tracer le long du paysage une ligne des aimés qui détruisent ton langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contresens. Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour vient pas, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. Et si la terre est sombre,
Nous sommes toujours dans l'instant 100% musique française avec également des bons plans à faire en Touraine. Nous espérons que vous passez un très bon moment à l'écoute de Cité Radio. Et pour vous remercier de nous rester fidèles, nous écoutons tout de suite un nouveau bon plan.
Cité Radio, les bons plans.
Du 8 mars au 17 juin 2024, vous avez rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Tours pour l'exposition Le Sceptre et la Quenouille. Celle-ci est consacrée aux femmes entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, en France et en Europe du Nord. Toutes les femmes trouvent leur place au cœur de cette exposition, qu'elles soient princesses, nobles et bourgeoises, commerçantes et paysannes, riches et pauvres, au pouvoir ou au travail. Peintures, sculptures, manuscrits et objets du quotidien issus des plus grands musées, soit plus d'une centaine d'œuvres majeures, sont rassemblés pour mettre en lumière la place, le rôle et l'image des femmes dans la société des 15e et 16e siècles. Cette exposition exceptionnelle propose ainsi un regard nouveau sur les femmes des époques médiévales et modernes, abordées dans toute leur profondeur, et offre une remise en perspective historique à un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. L'exposition Le Sceptre et la Quenouille est donc à découvrir du 8 mars au 17 juin 2024 au musée des Beaux-Arts de Tours. Le lieu est ouvert le lundi de 9h30 à 18h et du mercredi au dimanche de 9h à 18h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site mba.tour.fr. Merci d'être sur Cité Radio, la programmation revient tout de suite. Excellente journée à tous.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio 89.3.
Atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin. Libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin,
on est loin. Madame rêve,
Madame rêve.
Loin au ciel. On est loin,
Madame rêve.
Madame rêve.
Cité Radio, les bons plans.
Un bon plan loisir avec le parc des mini-châteaux du centre Val-de-Loire. Situé à Amboise, vous pouvez parcourir des siècles d'architecture en déambulant dans un parc arboré de 2 hectares et ainsi découvrir des joyaux du patrimoine français. Pas moins de 41 des plus beaux châteaux de la Loire sont reproduits à l'identique à l'échelle à 25e, allant d'Amboise à Blois et de Chambord à Villandry. Vous pouvez aussi profiter des espaces ludiques et des attractions, que ce soit en famille, en couple ou entre amis. Le parc des mini-châteaux est ouvert toute l'année de 10h à 18h à Amboise. Toutes les informations sont à retrouver sur le site parcminichâteaux.com. Et puis restez branchés car la programmation revient tout de suite sur Cité Radio. Belle journée!
Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant.
Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant.
Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent.
Cité Radio, les bons plans.
Un bon plan exposition avec sortir le travail de sa nuit. Celle-ci souhaite ouvrir la voie à une réflexion transversale sur la notion d'invisibilité. Il y est question de travail invisibilisé, de mécanismes globalisés, omniprésents et structurants, et de voix qui ne parviennent pas à porter, restant inaudibles, des sphères publiques. Il s'agit aussi d'élargir l'horizon pour examiner les phénomènes de la disparition et de l'effacement selon une focale plus esthétique, philosophique et poétique. Le parcours de l'exposition se déploie selon trois axes thématiques, le travail des femmes et du soin, les échanges mondialisés où se croisent les mouvements des marchandises et la migration des êtres, ou encore le travail numérique dématérialisé et ses nouvelles formes d'exploitation cachées. L'exposition collective Sortir le travail de sa nuit est à découvrir jusqu'au 1er septembre 2024 au Centre de création contemporaine Olivier Debré. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h et le samedi jusqu'à 19h. Informations à retrouver sur le site cccod.fr. Restez branchés sur Cité Radio car la programmation revient tout de suite. Passez une bonne journée à notre écoute.
Dans la poussière, les yeux brûlés par la lumière, vous me parlez de votre guerre fière. Sous votre robe glisse une lame, et je vous aime comme une femme. C'est la révolte qui m'enflamme. Varsovie sud-américaine, il y a des chants qui me reviennent comme un souvenir dans les veines qui traînent. Dans le maquis sans maquillage, guérilla ce soir fait rage. Vous lui donnez votre visage. De vos ardeurs, la violence n'a pas de couleur. J'ai peur. Rebelle et belle de toutes vos forces, vous êtes fragile dessous l'écorce. Message d'amour comme une entorse, une entorse.
Cité Radio, les bons plans.
Rendez-vous du 2 février au 16 juin au Centre de création contemporaine Olivier Debré pour découvrir Fragment 91. Lauréat du prix Mécénat Touraine Entreprise en 2022, Dieudonné Cartier présente cette exposition comme un laboratoire où l'artiste développe un parcours à la confluence des protocoles scientifiques, économiques et artistiques. Son projet inédit explore la question très contemporaine des data et du flux de données numériques. À travers différents prélèvements effectués dans la Loire, l'eau est ici envisagée comme la matière première et vivante de ses recherches qui traduisent les données chiffrées en objets artistiques. Détaché de ses fonctions premières, le langage mathématique est utilisé par l'artiste pour son caractère énigmatique et abstrait qui le replace dans le domaine du pictural et de la création de formes. L'exposition Fragment 91 est donc à ne pas manquer dans les galeries du CCCOD jusqu'au 16 juin 2024. Le lieu est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h et le samedi jusqu'à 19h. Toutes les informations sont à retrouver sur le site cccod.fr. Et restez connectés puisque la programmation revient tout de suite. Très bonne journée à tous sur Cité Radio.
Qu'est-ce qui t'amène? Oh Lucie, oh Lucie, qu'est-ce qui te gêne? Toute la ville t'appartient, toute la ville est dans. Ce n'est qu'histoire ancienne, tu connaissais déjà la fin. Lucie, oh Lucie, c'est pas la peine.
Lucie.